sol majeur.
Sol majeur.
Sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Encore une histoire de déracinement. D'abord en noir et blanc, dans les années 60 à Montreuil, près de Paris, lorsque naît Bruno Bougelal. On le devine sur la photo, entre maman Danielle et papa Lemaouche. Couple mixte, un grand classique entre la France et l'Algérie, sauf que le petit Bruno, aujourd'hui photographe à l'agence Vue, ne découvre ses origines algériennes que très tard. Histoire familiale chaotique donc, rattrapée par l'objectif de ce franco-algérien qui signe au pavillon carré de Baudouin à Paris dans le 20e une exposition intitulée « Jours intranquilles, chroniques algériennes d'un retour » où lorsque le reportage photographique croise le récit autobiographique.
J'ai toujours été persuadé d'être d'ici, jusqu'à un jour de mai 93 où je me suis retrouvé en Algérie. J'étais parti là-bas avec une totale méconnaissance de ce qui s'y passait. Je voulais effectuer une traversée du pays d'est en ouest et tenter de retrouver ma famille. Mon père, avec qui j'avais rendez-vous la veille de mon départ, afin qu'il me donne des renseignements, ne vint pas. Je débarquais donc à Alger, avec dans ma poche le nom du village où était né mon père et l'adresse de la cousine d'une amie, trop effrayée de me voir débarquer seul sans savoir où aller.
Bonjour Bruno Bougelal.
Bonjour.
J'ai envie de vous poser la première question, de savoir qu'est-ce que vous avez fait alors ?
Ben, j'y suis allé, je suis arrivé un soir de mai 93 à l'aéroport d'Alger avec un couple qui m'attendait avec une petite pancarte Bruno. Et donc ils m'ont accueilli, ils m'ont emmené dans leur voiture, ils m'ont emmené chez eux. On s'est assis pour manger, mais ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Ben, je leur ai dit « Je viens retrouver ma famille et je viens photographier. »
Donc ces chroniques algériennes 1993-2003 sont annoncées donc par ce texte que vous signez, que vous venez de lire. Et on entre comme ça dans l'esprit de votre démarche qui est à la fois professionnelle et intime. Et c'est une, j'ai l'impression que c'est une démarche qui a été possible parce qu'au départ, elle était complètement inconsciente.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis parti. L'idée, au départ, l'idée me vient de... Je commence la photographie avec ce premier voyage. Et donc, je me dis... pour moi, la photographie est essentiellement liée à la tradition du reportage, de l'actualité. Je me dis, il faut que j'aille dans un endroit où il y a une actualité forte. Donc, en 93, en Algérie, l'actualité est forte. Et donc, je me dis, je vais aller là-bas. En plus, c'est pas trop loin, pas trop cher. Enfin, c'est des choses très pratiques. Et puis, je me dis aussi, je vais quand même essayer de retrouver la famille. Mais j'y vais quand même avec une totale méconnaissance parce que quand même, je débarque à Alger avec le guide bleu.
Oui, effectivement. Alors, ce qui est fou, c'est que vous partez donc pour la première fois en 93, donc armé de votre appareil photo, au moment où vous venez de le dire, le pays est en proie à de terribles violences, c'est-à-dire au moment où finalement c'est impossible de faire de la photo.
Tout à fait, tout à fait. Mais je vous dis, hein, d'ailleurs la première journée, j'arrive le soir à Alger, je suis chez ces gens-là, et le lendemain matin, au petit déjeuner, je pars, ils habitent dans la banlieue d'Alger, qui s'appelle El Arach, qui est un coin, quartier très très chaud, mais que je connaissais pas. Et donc, je me dis, bon, bah voilà, je vais à la gare, et puis je vais travailler, mais ils m'ont dit, mais où tu vas tout seul comme ça, et ton appareil photo? Je dis, bah, je vais photographier. Et donc, je suis arrivé, j'ai même pas pu franchir le seuil de la gare de El Arach, que je me suis fait arrêter à l'époque, vous savez, il y avait les fameux ninjas, qui m'ont collé au sol. Qu'on vu à l'époque, j'étais avec le passeport français, qui m'ont dit, mais t'as un passeport français, t'as un appareil photo. Il me dit, t'es pas un journaliste, toi? Qu'est-ce que tu viens faire là? Je lui dis, non, je viens visiter. Et puis, l'autre qui fouillait mon sac pendant ce temps-là a trouvé le guide bleu. Et il est parti dans un grand éclat de rire. Il dit, ah, toi, tu es un fou, il peut rien t'arriver.
Vous êtes sauvé par ça. Voilà. Mais alors, cette impossibilité de photographier, en même temps, vous permet de trouver votre procédé à vous, de photographe, finalement. Vous êtes dans la photo volée.
Tout à fait. Disons que ça s'est mis en place. Enfin, après la première journée à Alger, cette première journée où ça a été très dur, je me suis fait attaquer deux fois, arrêter, enfin, beaucoup de choses. Je suis arrivé le deuxième soir. Tout le monde m'a appelé de France en me disant faut rentrer. Les gens chez qui j'étais m'ont dit faut rentrer. J'ai passé une nuit difficile à dire qu'est-ce que je fais, je rentre pas. Et puis finalement, je rentre. Après, je rentre pas plutôt, un lapsus intéressant. Et donc, au niveau de la photographie, je me suis dit, par rapport à l'expérience de la journée précédente, je me suis dit, c'est impossible de photographier, donc j'avais peur. J'osais même plus sortir l'appareil photo. Et donc, j'ai vite compris que, il fallait non seulement voler les photos, mais il fallait essayer d'être transparent. Et donc, et au fur et à mesure des voyages, s'est mis en place une forme un peu extrême, d'une pratique un peu extrême de la photographie, c'est-à-dire travailler qu'avec des appareils d'amateurs. Parce que même si vous vous y êtes arrêté ou contrôlé, on vous dit, bah, moi je suis un immigré, vous voyez bien que je suis pas professionnel. Et puis après aussi, c'était le fait de dire que de cadrer, c'est trop dangereux, donc on met pas l'appareil à l'œil. Et puis il y a aussi deuxième chose, troisième chose, le fait de toujours en mouvement. C'est-à-dire si on s'arrête, vous attirez l'attention, donc on ne peut photographier qu'en mouvement et sans cadrer.
Donc on va voir à l'issue de cette conversation et de ce travail photographique et intime si vous avez récupéré votre part d'algérianité, Bruno Boudjelal. Voilà dans le fauteuil dans Sol majeur pour parler de cette origine algérienne avec un petit clash sur notre pick-up dans Sol majeur. Culture rock au programme de l'ado que vous avez été ?
Oui, oui, tout à fait.
Vous teniez absolument à ce qu'on écoute Lost in the Supermarket, pourquoi ?
Bah, si, à l'époque, c'est les années 80, synonyme de la rébellion, quoi. Quelque chose de porteur d'envie de tout casser, de tout changer. Voilà.
Les Clash, dans les le Clash. Programme en sol majeur de Bruno Boudjelal sur RFI.
Shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. I wasn't born, so much as I fell out. Nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburb, over which I never could see. I heard the people who lived on the ceiling scream and fight most scarily. Hearing that noise was my first ever feeling, and that's how it's been all around. I'm lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for that special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons, packets of tea. I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle, I feel a bit free. The kitchen halls and the pipes in the walls make me noises for company. Distant callers make long distance calls. Silence makes me lonely. I'm all lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for that special offer, a guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for that special offer, a guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for that special offer.
Les Clash sur RFI et dans le programme de notre invité, le photographe Bruno Boudjelal, français, à plein temps, algérien par intermittence. Ce qui nous amène à pousser la porte d'une première question en sol majeur.
Que savez-vous de vos ancêtres ?
Cher Sidi Bémol et Fellag pour vous poser la question.
Mes ancêtres, ça a été tout d'abord déjà d'essayer de retrouver cette famille. Et je connaissais, ça a été difficile ce premier voyage, parce que j'avais juste le nom du village où était né, ou de la ville. Je ne savais pas où était né, enregistré mon père à l'état civil. Et je me suis dit, peut-être il a été enregistré là à l'état civil, ça veut dire qu'il subsiste une mairie ou quelque chose. Et donc, j'ai vu que c'était dans la région de Séti, je me suis rendu dans la région de Séti.
Mais là, vous commencez par la fin de l'histoire, si j'ose dire, Bruno. Le début se passe du côté de l'Alsace, non ? Côté maternel.
Tout à fait. Bah écoutez, une famille, enfin du côté de ma mère, une famille donc française, ma mère ayant des parents, mon grand-père français originaire de l'Alsace et de l'Auvergne, pupille de la nation, et puis ma grand-mère française originaire de la région parisienne.
Alors cette branche alsacienne, si j'ai bien compris, n'a pas vraiment fait bon ménage avec la branche algérienne.
Non, ça a été très compliqué. Bah, un début déjà très compliqué. Mon père et ma mère se sont rencontrés dans les années 60. Ma mère enceinte, mon père part, disparaît, et mon grand-père apprenant. Enfin, son père apprenant qu'elle était enceinte, en plus d'un arabe, la met dehors. Et puis, au moment de juste avant qu'elle accouche, elle retourne de nouveau. Ils la prennent de nouveau chez eux. Mm-hmm. Et ils l'emmènent accoucher à une clinique à Montreuil, où ma mère accouche. Et ils décident de me reconnaître. Mon grand-père me reconnaît. Et donc, j'ai découvert ça il y a pas mal d'années en demandant un extrait d'acte de naissance avec filiation complète, où j'ai découvert avec grande surprise que je m'étais pas toujours appelé Boujlal, mais que je m'étais appelé Sombret. Quel nom de mon grand-père. Parce qu'effectivement, ce qui est logique, c'est que mon père ayant disparu, il m'a reconnu, mon grand-père m'a reconnu et m'a donné son nom de famille. Et donc, je me suis appelé Bruno Sombret. Et Bruno aussi, qui s'explique par le fait que, bah, évidemment, mon père n'était pas là. Et chose qui a été reprochée à mon père, par exemple, par ses sœurs en Algérie, qui lui ont dit quand il est venu, mais pourquoi t'as appelé ton fils Bruno ?
Alors, on va s'appesantir sur ce père. Hein. L'image du père va en prendre encore un petit coup, je pense. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Votre papa quitte l'Algérie dans les années 50 pour des raisons assez banales et classiques.
C'est ce que j'ai ri, parce qu'il subsiste encore beaucoup de silence. J'ai longtemps pensé que les deux voyages effectués avec lui là-bas allaient me permettre de tout comprendre. Alors, j'ai compris des choses, c'est que dans les années 50, après la mort de sa mère, il est parti avec le mari de sa sœur aînée qui déjà travaillait en France. Et donc après, c'était à Nanterre. D'ailleurs, cet homme est mort et a été enterré dans la fosse commune. Mm-hmm. Et puis, dans les années juste, en pleine guerre d'Algérie, le frère de mon père vient en France pour chercher mon père et lui dire, écoute, il est en train de se passer des choses importantes en Algérie, il faut que tu reviennes combattre, on a besoin de toi. Mon père a refusé, a dit, moi, c'est plus mon histoire, moi, je reste en France. Et donc, mon oncle, le frère de mon père, est rentré en Algérie une semaine après. Il s'est fait arrêter par la police française. Parce que non pas, c'était pas un combattant, mais c'était quelqu'un qui approvisionnait en nourriture les résistants, les combattants. Et donc il a été arrêté à son domicile par la police française, torturé et jeté vivant au fond d'un puits. Et c'est quand on a fait le premier voyage avec mon père en Algérie, on a été un jour dans un petit village voir de la famille. Et il y a un vieux monsieur qui est venu nous voir, qui était un cousin germain de mon père, qui était un grand moudjahid, qui lui a dit, écoute, qui a sorti une petite photo, qui était la photo de mon oncle, et lui a dit, écoute, moi, je vais t'apprendre ce qu'il est devenu de ton oncle, l'histoire que je vous ai racontée. C'est ce vieux monsieur lui-même, qui était jeune combattant à l'époque, qui a remonté le corps inerte de mon oncle Dupuis.
Donc un papa silencieux, sans doute, au bout de cette histoire. Sur cette histoire familiale, on va dire qu'il va manquer la famille ou l'esprit de famille. On revient à vous, petit Bruno. À quel moment vous apprenez que vous avez été placé en institution ?
Je l'apprends très tardivement. Je l'apprends autour de cette histoire de quand j'ai une vingtaine d'années, autour de ce certificat, quand je vois le nom de Sombret et je demande à mes grands-parents et je demande à mes parents, mais pourquoi ça ? Et c'est là que ma grand-mère m'explique, me dit, mais écoute, tu sais, quand tu es né, le lendemain, après que l'on t'ait reconnu, on t'a déposé dans un institut, et même ça c'est difficile à savoir exactement, pour enfants illégitimes, et donc je suis resté dans cet institut plusieurs mois. Après, je ne peux pas savoir la durée exacte, je sais seulement qu'à partir du moment un an et demi plus tard où mon père m'a reconnu et s'est marié avec ma mère et m'a reconnu, ça veut donc dire que j'y étais plus. Mais après, et même quand mes grands-parents étaient vivants, français étaient encore vivants, ou même mes parents leur demandaient comme ça, mais combien de temps je suis allé là-bas, et ils sont pas capables de me répondre. Mmh. Et ce que j'ai appris aussi par la suite, c'est que la branche alsacienne, c'est l'arrière-grand-mère de mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire la mère de mon grand-père français, qui est venue me chercher dans cet institut. Alors après combien de mois, je ne sais pas, et qui leur a dit, écoutez, moi, je laisse plus cet enfant là-bas, moi, je le prends. Si vous voulez pas vous en occuper, je m'en occupe.
Qu'est-ce que ça donne alors pour vous, question souvenir conscient ou semi-conscient par rapport à cette identité? Vous passez du patronyme français au patronyme algérien. Comment vous vivez ça?
Je m'en aperçois pas tellement, et j'en ai pas vraiment une conscience ni des souvenirs. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que donc quand mon père épouse ma mère, ils me prennent avec eux, et après ils me confient à mes grands-parents français, et à l'âge de l'adolescence, peut-être un 12, 13 ans, 14 ans, il y a cette anecdote, c'est que j'allais quand même, je voyais mes parents un mois par an, où on allait en vacances ensemble, et souvent, voilà, on était au bord de la mer, on allait dans le sud de la France, peut-être Perpignan, et bon, je rencontrais des copains, des fleurs, tout ça, et à la fin, évidemment, on s'échangeait les adresses, et je donnais, et de nous, à partir de là, je donne le nom de Bruno Sombré. Et à tel point que quand j'habitais donc encore là chez mes grands-parents, je me suis vu écrire Bruno Sombré sur leur boîte aux lettres.
Donc vous niez votre part algérienne, ouais, en tout cas. Vous êtes enfant unique, Bruno Boudjellal ?
À ma connaissance.
Ça veut dire quoi ?
Je sais pas, à ma connaissance, je pense qu'il peut y avoir des surprises.
Papa polygame, peut-être. Allons-y. Hein.
Impossible.
On n'est plus à ça près. Jusqu'au déclic de la photographie, très rapidement, à 32-33 ans, vous faites un peu tout. Vous zonez, c'est ça ?
Oui, face jaune, c'est sage. Hein. Je voyage. Je fais des études en même temps, je voyage, et après j'arrive même à vivre du voyage, parce que je deviens guide touristique en Birmanie, voilà. En Asie du Sud-Est.
C'est une autre histoire. Le parrain de la scène congolaise va faire son entrée en sol majeur. Il s'agit de Jupiter Bokonji, que vous aviez envie d'écouter, de nous faire partager. Il représente quoi pour vous ?
Une grande rencontre, parce que j'ai eu un grand projet où j'ai traversé l'Afrique du nord au sud par la route pendant 5 ans, et j'ai rencontré Jupiter, qui est un musicien issu des ghettos de Kinshasa.
Bokonji sur RFI et dans le programme de Bruno Boudjellal, qui revient nous parler de Fela côté musique et de Bentalha côté Algérie. Tout ça dans 3 minutes sur RFI.